Donc travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Au-delà des petites phrases de Sarkozy sur son propre sort, si jamais il n'était pas réélu, au-delà des divers shows médiatiques de Hollande, ces dernières semaines ont été marquées par l'annonce de nouvelles fermetures d'entreprises. Après Cifrance et Petroplus, c'est sur la fermeture de Le Jabi que les médias ont mis les projecteurs. Et qui parmi nous n'a pas partagé la révolte de ces ouvrières qui se retrouvent virées après avoir travaillé 10, 20, 30 ans au SMIC? Mais combien de Le Jabi, combien y a-t-il de Le Jabi qui ferme chaque semaine dans le pays? Combien de travailleurs se retrouvent comme les ouvrières de Le Jabi, mis sur le carreau après avoir fait la fortune de quelques grands patrons? À commencer par les 247 travailleurs de l'usine Merck d'Éragny-sur-Epte, non loin d'ici, menacés de licenciement, eux aussi, même si les grands médias nationaux n'en ont quasiment pas parlé. Le pays vit depuis 3 ans maintenant une hémorragie de fermetures d'entreprises et de licenciements. Et ce sont des dizaines de milliers d'ouvriers, d'employés, de magasiniers, de chauffeurs routiers, d'intérimaires qui perdent ou ont perdu le salaire qui les faisait vivre. Et depuis le début de la crise, il y a eu 1 million de chômeurs supplémentaires chaque jour. 1 million de chômeurs supplémentaires, c'est-à-dire 1 000 tous les jours. Et que fait le gouvernement contre cela? Bien rien. La semaine dernière, à l'occasion du prétendu sommet social, le gouvernement n'a annoncé que des mesures dérisoires sur la formation et sur le chômage partiel. Des mesures qui ne sont en réalité que des aides déguisées au patronat. Mais qu'est-ce que François Hollande propose, lui, contre le chômage? Cette semaine, on l'a beaucoup entendu et on l'a vu sous toutes les coutures. Mais qu'a-t-il à opposer aux fermetures d'usines? Qu'a-t-il à opposer aux licenciements? Qu'a-t-il à dire aux travailleurs aujourd'hui menacés d'être mis sur le carreau? Eh bien, rien. Il n'en a même pas parlé. Hollande n'a pris aucun engagement vis-à-vis des travailleurs. Il ne s'est pas engagé à faire quoi que ce soit contre la dégringolade du niveau de vie des couches populaires. Rien sur les salaires. Rien sur le SMIC. Alors, il promet de taxer un peu plus les riches. Mais qu'est-ce que cela peut faire à tous ceux qui n'arrivent plus à payer toutes leurs factures? Qu'est-ce que ça peut faire à tous ceux qui sont à zéro le 10 du mois? Sur la retraite, il a bien promis de ramener l'âge légal à 60 ans, mais il a confirmé que cela ne concernera que ceux qui ont travaillé et cotisé les 41 annuités et demie et les 41 et demie plus tard, comme le prévoit l'allongement de la cotisation mis en place par Sarkozy. Alors cela ne concernera que ceux qui ont commencé à travailler très tôt et encore sans avoir eu de période de chômage. Autant dire que cela ne concernera qu'une toute petite minorité. Sur les 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale au bout de 5 ans, on sait maintenant qu'ils seront pris sur d'autres postes de la fonction publique, ce qui s'appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul. Alors la seule chose qui semble certaine du côté de Hollande, c'est qu'il fera une politique de rigueur. Hollande nous promet une politique de rigueur plus juste, mais quel que soit l'enrobage, quand tous les dirigeants politiques parlent de rigueur, ce sont toujours les classes populaires qui finissent par payer. Alors nous sommes prévenus. Si Hollande est élu, les sacrifices continueront et les coups, au lieu de venir de la droite, viendront de la gauche. Et si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Sarkozy, eh bien, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance en François Hollande.
Bravo.
Ce sont les travailleurs qui ont payé cette crise. Et ils l'ont payé en perdant ce qu'ils avaient de plus précieux, leur emploi et leur salaire. Parmi ceux qui ont été licenciés, combien ont épuisé leurs droits au chômage et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre? Et même pour ceux qui ont un salaire et un emploi à temps complet, la vie devient de plus en plus difficile. Parce que tout augmente. Le loyer, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, le carburant, tout augmente. Le gouvernement s'est vanté en ce début d'année parce que le gaz n'a augmenté que de 4,5%. Mais qui, parmi nous, a vu son salaire ou ses allocations augmenter ne serait-ce que de 4,5%? Alors, personne, bien sûr. Et les salaires, eh bien, ils ne suivent même pas l'augmentation des prix des produits alimentaires. Alors, quoi d'étonnant à ce que les restaurants du cœur soient de plus en plus sollicités, et y compris par des travailleurs? Mais attention, que le chômage et la misère a explosé sur ces 3 années de crise, eh bien, les dividendes des actionnaires ont été, eux, préservés. Ils ont été garantis. Et mieux même, pour les actionnaires du CAC 40, ils ont augmenté de 31%. Et pendant que les salaires stagnaient et que notre pouvoir d'achat a, nous, dégringolé, eh bien la rémunération des grands patrons, elle, a augmenté de 34%. Alors on nous dit que c'est la crise. Ça, personne ne peut le nier. Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort indemne et que ce sont les travailleurs qui payent. Non, ça c'est le résultat d'une politique patronale. C'est le résultat de la lutte de classe entre le patronat et les travailleurs. Et une lutte de classe de plus en plus violente, au cours de laquelle le grand patronat peut compter sur l'État et sur le soutien du gouvernement. Ce soir, sous couvert de lutte contre le chômage, le gouvernement Sarkozy devrait annoncer un nouveau plan d'attaque en règle contre les travailleurs. Et la mesure phare devrait être la fameuse TVA sociale. C'est du Sarkozy fillon tout craché. Parce que pour accoler le mot « social » à TVA, il faut être de sacré menteur. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit. Parce qu'il fait payer au même tarif le smicard, le chômeur et le milliardaire. Et c'est avec cet impôt injuste que l'État remplit déjà près de la moitié de ses caisses. Il rapporte quasiment 3 fois plus que l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Et le gouvernement vient déjà de l'augmenter. Depuis le 1er janvier, nous payons tous maintenant 7% de TVA sur la restauration, sur les travaux, sur le transport, sur les médicaments non remboursés. En plus d'avoir déjà augmenté le prix des cigarettes, de l'alcool et d'avoir mis une surtaxe sur les sodas. Et c'est cette TVA que le gouvernement veut encore augmenter pour en échange baisser des cotisations patronales. Le gouvernement se fait en la matière la voix du patronat, la voix de son maître. Et il vous explique depuis déjà plusieurs semaines tous les bienfaits de cette nouvelle TVA qui est censée nous donner plus de compétitivité, moins d'importations et plus d'emplois. Au point que certains ont même surnommé cette TVA la TVA anti-délocalisation, ou même la TVA emploi. Et on voit tous les ministres se relayer pour nous démontrer par A plus B que ça marche. Eh bien, je vous le dis, plus ils donnent de chiffres et plus ils nous baratinent. Ils ont tous rabâché que sur 100 euros versés aux salariés, le patron paye 50 euros de charges en France, 39 euros en Allemagne. On a tous appris ces chiffres par cœur. Mais c'est vrai pour combien de salariés ? Les patrons ont droit à des exonérations sur tous les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Alors sur combien de salaires les patrons payent-ils des charges complètes? Et combien de contrats d'apprentissage sont signés justement pour ne pas avoir à payer de cotisations sociales? Quant à dire que cela rendra plus compétitifs les produits français face aux importations chinoises et que cela pourrait conduire à des relocalisations, c'est complètement ridicule. Le gouvernement nous présente cette mesure comme la mesure qui va tout révolutionner. Mais il se moque du monde. Cela fait 30 ans que les exonérations de charges se multiplient au point qu'elles atteignent aujourd'hui les 30 milliards. Et il n'y a jamais eu autant de chômeurs dans le pays. Sur ce sujet du coût du travail, il y a unanimité. Une sorte d'union nationale entre le patronat et tous les partis, de l'extrême droite à la gauche, pour dire qu'en France, le coût du travail est trop élevé. Comme le patronat, les dirigeants politiques présentent les travailleurs comme un coût. Mais les, travailleurs ne coûtent pas à l'entreprise. Ils rapportent. Ce sont eux qui font rentrer l'argent dans les caisses. Ce sont eux qui font tourner les entreprises, qui créent les richesses. Alors parler de coûts en ce qui concerne les travailleurs, c'est une escroquerie. Et que de l'extrême droite... à la gauche, tous les dirigeants marchent dans cette escroquerie, suffit à montrer qu'ils sont dans le camp de la bourgeoisie. Non, ceux qui coûtent cher aux entreprises ne sont pas les travailleurs, ceux qui coûtent cher, ce sont les parasites, les actionnaires, le grand patronat qui se sert des millions, si ce n'est des milliards de dividendes. Eh bien, s'il y a un coût à baisser dans les entreprises, c'est celui-ci. Au Bourget, Hollande s'en est pris à la finance. Ce n'est pas le premier. Souvenez-vous, Sarkozy avait fait presque le même numéro en septembre 2008. Il avait dénoncé la responsabilité écrasante des banquiers et des spéculateurs dans la crise. Il avait même déclaré qu'il allait moraliser, remettre les marchés financiers à leur place. Il nous avait dit qu'il allait refonder le capitalisme. Au même moment, Obama faisait de vibrants discours contre l'irresponsabilité des banquiers. Alors tout cela, c'est du cinéma. Aucun d'eux, ni Sarkozy, ni Obama, ni Hollande, n'imagine une seconde traduire en justice les banquiers coupables. Aucun d'eux n'imagine condamner ceux qui ont fourni de l'argent à la spéculation. Non seulement ils ne demandent pas aux banquiers de payer pour les dégâts qu'ils ont causés, mais ils sont tous d'accord pour les inonder de milliards d'argent public. C'est passé inaperçu. Mais le Père Noël a été très généreux pour les banquiers européens. Parce que la Banque Centrale Européenne leur a ouvert du crédit illimité au taux de 1% sur 3 ans. Et ils se sont servis. Ils se sont servis pour 500 milliards. Eh bien, c'est avec cet argent qu'ils ont obtenu pour rien, qu'ils vont aujourd'hui reprêter aux États, mais attention, ça ne sera pas à 1% cette fois-ci, non. Ça sera à 3, 4, 5, 7, voire bien plus encore. Alors voilà comment les banquiers et les spéculateurs gagnent le beurre et l'argent du beurre, aujourd'hui, avec la complicité du gouvernement Sarkozy-Fillon. Mais si Hollande revient au pouvoir, il les a déjà assurés qu'ils seront payés, et qu'ils seront payés rubis sur ongle. Aujourd'hui, Sarkozy tente de se racheter une virginité en parlant de la taxation des transactions financières. Bien qu'il évoque cette mesure à 100 jours de l'élection présidentielle, alors que pendant 5 ans de présidence, il en a été l'adversaire, on dit long sur sa sincérité. Mais quand bien même Sarkozy aurait vraiment l'intention et les moyens de créer cette taxe, cela ne changerait rien à la spéculation. La taxe Tobin est un prélèvement ridiculement bas. Le gouvernement hésite d'ailleurs sur le nombre de zéros à mettre après la virgule. Pour ne pas être trop douloureuse aux riches, faut-il une taxe de 0,1% ou de 0,01%? Eh bien, leur lâcheté devant les puissants est écœurante. Tous ces dirigeants ne font pas autant de manières quand il s'agit d'augmenter la TVA, le gaz, le train, la CSG. En achetant notre baguette de pain, on paye 5,5% de TVA, 7% sur notre sandwich, et sur la majorité de nos achats quotidiens, on paye 19,6% de TVA, quand il ne faut pas encore rajouter d'autres taxes là-dessus. Et on ne demanderait à ces messieurs les spéculateurs de ne payer que 0, quelque chose sur des transactions qui leur rapportent des millions et qui en plus nuisent à toute la société. Alors, taxe ou pas taxe, il n'y a pas de quoi faire oublier la servilité du gouvernement Sarkozy, de tous ses acolytes, comme du Parti socialiste vis-à-vis des banquiers et des spéculateurs. Non, pour combattre la spéculation et pour un système bancaire qui fonctionne pour l'intérêt de la population, il faudra exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat, fusionner les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner au service de la population et sous son contrôle. Le gouvernement Sarkozy-Fillon fait depuis déjà longtemps un chantage permanent sur la dette de l'État, en nous expliquant qu'il est de notre devoir à tous de la rembourser, et que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, il reviendra à nos enfants, voire à nos petits-enfants de le faire à notre place. Et quand Hollande tient à rappeler que tout ne sera pas possible, qu'il faut être réaliste, il ne dit pas autre chose. Il est vrai que la dette a explosé pendant ces 3 années et demie de crise. Le gouvernement a contracté 500 milliards de dettes supplémentaires dans ces années-là. Mais où est passé cet argent? Ces 500 milliards, c'est quand même pas une paille. Ils sont bien passés quelque part, ils ont bien servi à quelque chose. Qui est-ce qui en a profité? Eh bien, aucun travailleur n'a vu la couleur de cet argent. Rien dans les hôpitaux, rien dans la santé, rien pour les retraites, rien pour l'éducation. Si la dette a explosé pendant ces 3 années de crise, c'est parce que l'État a fait de l'assistanat à grande échelle pour les banquiers et pour les industriels. Les grandes entreprises ont toutes été aidées à coups de milliards et les dividendes des actionnaires ont été garantis par des subventions diverses et variées de l'État. Et les plus fortunés, vous le savez, ont été protégés par le bouclier fiscal. Alors voilà où sont passés les milliards que le gouvernement Sarkozy-Fillon veut faire payer aujourd'hui à toute la population. Chacun d'entre nous a eu à s'endetter pour acheter une voiture, pour acheter un logement. Et parfois même, nous sommes obligés de nous endetter tout simplement pour se soigner. Et on est bien obligés de rembourser. Il nous arrive parfois d'aider un voisin ou un membre de sa famille à rembourser ses dettes. Mais pourquoi devrait-on payer pour la dette du patronat? Pourquoi devrait-on payer pour la dette des capitalistes? Alors non, quand bien même on nous ressort cette dette de l'État à toutes les sauces, les travailleurs n'en sont pas redevables. Cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie, et bien c'est à la bourgeoisie de la payer. Depuis plusieurs semaines, on entend beaucoup parler du « made in France ». Il faudrait produire, consommer français et revenir au protectionnisme. Tout cela au nom de l'emploi, bien sûr. Mais les mêmes qui défendent cela ne trouvent rien à redire aux suppressions d'emplois. Ils n'ont jamais rien contre les licenciements et ils ne s'opposent jamais aux fermetures d'entreprises. Chacun pousse son petit cocorico, de Marine Le Pen à Montebourg, en passant par Bayrou et Sarkozy, et il ne faut pas non plus oublier Hollande et son patriotisme industriel. Eh bien, ces discours protectionnistes sont ridicules. Tout ce qui est produit, chaque objet fabriqué, l'est avec des matériaux, des technologies et des pièces qui viennent des quatre coins du monde. Il n'y a plus de produits industriels français. Allez voir par curiosité dans votre boulangerie préférée comment la baguette de pain bien française est fabriquée. Allez voir d'où vient le four, où est fabriqué l'inox, du pétrin. Et puis la concurrence internationale, dont il faudrait se protéger, est organisée par nos propres capitalistes, qui sont les premiers profiteurs de l'exploitation à l'échelle mondiale. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes multinationales d'un bout à l'autre de la planète. Alors, s'il s'agit de dénoncer les fermetures d'entreprises, pourquoi ne pas dénoncer les responsables directs, les licencieurs, les capitalistes eux-mêmes qui suppriment des emplois pour accroître leurs profits? Pourquoi montrer du doigt les travailleurs à l'autre bout du monde qui sont nos frères? Ce n'est pas des travailleurs chinois, indiens ou autres dont il faut se protéger. C'est des capitalistes, c'est de leur rapacité, c'est de leur diktat. Le protectionnisme, c'est la version moderne de la propagande nationaliste, qui était il y a peu le terrain de prédilection de l'extrême droite. Et bien que ces idées soient aussi véhiculées à gauche, ne change rien au fait que c'est un poison pour les exploiter. Dans cette période de crise, il n'est d'ailleurs pas impossible que les États capitalistes en viennent eux-mêmes à remettre en cause les accords commerciaux ou financiers internationaux. Nous allons peut-être vivre une phase de remontée du protectionnisme. Mais souvenons-nous, la dernière fois que les grandes puissances ont opéré ce genre de repli protectionniste, c'était à la suite de la crise des années 1930. Et cela a mené à la Seconde Guerre mondiale. Alors personne ne peut dire où nous mènera la crise actuelle du capitalisme. Mais ce qui est certain, c'est que pour la classe ouvrière, il n'y aura d'issue qu'à travers des luttes pour défendre ses intérêts propres et qu'à travers la conscience d'être à l'échelle du monde une seule et même classe exploitée. La seule perspective politique valable pour les travailleurs, c'est d'inverser le rapport de force avec le patronat, c'est de ne pas se laisser faire. Et il n'y a pas de raccourci électoral, parce qu'il n'y a pas, et il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève et par leur manifestation. La seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement et qui fassent craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais aussi de perdre son pouvoir sur les entreprises. Et nous avons la conviction que les attaques du grand patronat contre les travailleurs et la provocation des riches et de leurs porte-paroles en tout genre finiront par provoquer cette explosion sociale. Quand, où et comment les luttes se déclareront, nous ne le savons pas. Et il serait vain de broder à ce propos. Mais ce que nous savons, c'est que la colère ou même la détermination ne suffiront pas pour inverser le rapport de force. Il faut aussi que les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent où ils veulent aller, pour quels objectifs on peut se battre. Sans quoi il y aura toujours des charlatans pour nous emmener vers des impasses. Les responsables politiques ont mille et une façons de détourner la colère des travailleurs. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On assiste à une vaste campagne qui conduit à opposer les peuples les uns aux autres. Quand on ne montre pas du doigt les Grecs, ce sont les Allemands et leur égoïsme supposé. Quand on manque d'idées, il y a toujours les Chinois, sans parler des étrangers et des immigrés sur qui l'extrême droite et la droite tirent à tous les coups. Alors s'il y a des millions de personnes dans la rue, eh bien les mêmes inventeront n'importe quoi pour emmener les luttes vers des voies de garage. Ils feront tout pour sauver la mise à la bourgeoisie. Alors contre ce concert de mensonges actuels, destiné à tromper les travailleurs, nous voulons, nous, défendre une politique de classe. Il faut qu'il soit clair pour tous que les dégâts de la crise seront inévitablement payés. Et si les travailleurs ne veulent pas que la bourgeoisie et ses dirigeants politiques leur fassent payer, eh bien il faut contraindre les possédants à payer. C'est eux ou c'est nous. Et tous les responsables politiques qui prétendent venir en aide aux exploités, mais sans s'en prendre aux exploiteurs, à leur profit, à leur fortune, sont des menteurs. Oui, il faudra faire payer la bourgeoisie. Nous avons à protéger nos seuls moyens d'existence, nos emplois et nos salaires. Et il faut les défendre bec et ongle, en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous les bras disponibles sans diminution de salaire. Si l'activité baisse, s'il y a moins de commandes, il n'y a aucune raison que ce soit les travailleurs, les intérimaires, les CDD qui en fassent les frais en étant mis à la porte. Il faut forcer le patronat à répartir le travail entre tous de façon qu'il assure l'emploi et le salaire de chacun. Bien sûr, cela coûtera de l'argent. Mais les exploiteurs ont l'argent pour cela. Et c'est précisément parce que cet argent est aujourd'hui détourné vers les opérations financières que la société crève. Alors cet argent, eh bien il serait mille fois mieux utilisé à des embauches et au versement des salaires. Nous devons aussi avoir l'objectif d'obtenir des augmentations de salaire, des augmentations des pensions de retraite, et d'imposer qu'ils soient indexés sur les prix. Et sur les prix que nous mesurerons nous-mêmes, par en bas, au jour le jour, et pas sur l'inflation qui est officiellement mesurée, mais qui sous-estime l'augmentation des prix pour les classes populaires. Et nous continuerons de défendre un troisième objectif, plus général, qui est la condition même de tous les autres, qui est d'imposer le contrôle des travailleurs et de la population sur les comptes des entreprises et des banques. Parce que les capitalistes nous expliqueront qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont forcés de licencier, qu'ils ne peuvent pas embaucher, qu'ils ne peuvent pas augmenter les salaires, que tout cela n'est pas possible parce qu'il y a la concurrence internationale et parce que cela les ruinerait. Alors il faut que les travailleurs puissent tout connaître de l'argent qu'il y a dans les entreprises, à quoi il sert, combien va aux travailleurs, combien va aux actionnaires, combien est versé aux banques, quelle marge est faite avec tel et tel client, avec tel et tel sous-traitant. Et pour cela, il faut supprimer le secret des affaires et permettre aux travailleurs de dire tout ce qu'ils savent de ce qui se passe dans les entreprises. Les groupes capitalistes et les banquiers sont trop irresponsables à l'égard de la société. Ils se préoccupent exclusivement de leurs profits privés. Et ils l'ont montré tout au long de la crise. Et les différents scandales sanitaires, celui du Mediator, celui des prothèses mammaires, le montrent. Ce sont des irresponsables. Pour pouvoir les empêcher de faire leur sale coup en cachette, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Bien sûr, supprimer cette loi qui punit actuellement tous ceux qui rendent publics les mauvais coups qui se préparent derrière le secret des affaires ne fera pas tout. Cela ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle des travailleurs. Mais pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté de la population de prendre en main ce contrôle, la volonté des travailleurs de se mobiliser et de s'organiser pour cela. Mais cette suppression du secret des affaires, ce sera un premier pas. Un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester cette dictature du grand capital. Voilà quels sont les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Et nous ne le répéterons jamais assez, mais nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail. Mais c'est la seule issue. Et je me présente dans cette élection pour défendre cette politique, ce programme, qui est un programme de lutte pour les travailleurs. Et je serai la seule à le défendre. Tous les autres, y compris ceux qui se targuent d'être plus radicaux, sont trop respectueux du marché, de la concurrence et de la propriété capitaliste pour le faire. Ils s'accommodent de cette société capitaliste. Mais c'est un ordre social injuste et une organisation économique stupide. L'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, des inégalités, des injustices. La société capitaliste est une maison de fous, où les crises sont déclenchées parce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société, parce qu'il y a trop de production par rapport à ce que la population peut acheter. Et ce trop-plein de richesses, eh bien, il va dans la finance, il finit dans la spéculation. Et cela étouffe toute l'économie. Le capitalisme est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. Nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire. Pour construire vite, pour construire bien. Mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, et moins il y a d'éducation. Plus on a les moyens de soigner des maladies graves et de réussir même des prouesses médicales, et moins les gens se soignent. On est capable, aujourd'hui, de produire de la nourriture pour deux fois la population de la planète. Mais il y a des millions de femmes et d'hommes qui sont affamés aujourd'hui dans le monde. Pour changer cela, il faut une transformation profonde de la société, qui ne peut se faire qu'en expropriant la bourgeoisie et qu'en réorganisant la production sur d'autres bases. Alors, à tous ceux révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte et au communisme. Chacun a le choix de lutter pour un monde meilleur qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement ceux d'une minorité rapace. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité et la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles que l'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, tous ceux qui ne se se résigne pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. La transformation de la société n'est pas l'enjeu de l'élection présidentielle, et elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas surgir des urnes. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence et décidées de prendre le mal à la racine. Et à une toute autre échelle, il en va de même du programme de lutte que j'ai exposé. Aucun vote ne pourrait l'imposer. Mais cette campagne électorale, eh bien, elle nous donne la possibilité de le défendre et de préparer politiquement les travailleurs pour les luttes à venir. Cette campagne, elle nous donnera un peu plus accès aux médias, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. Ce moyen, de toute façon, ne pèsera pas lourd face au matraquage médiatique en faveur du point de vue des possédants. Et il ne faut pas s'en étonner, parce que depuis toujours, le mouvement ouvrier a dû se donner ses propres moyens pour propager sa propre politique. Et parmi ces moyens, il y a surtout l'activité des militantes et des militants, des travailleurs conscients et de celles et ceux qui sont dans leur camp et qui partagent ces idées. Vous pouvez contribuer à faire entendre ces idées dans cette campagne. Si vous le voulez, vous pouvez nous aider à faire entendre une voix communiste qui n'en reste pas à la dénonciation des excès du capitalisme, mais qui remet en cause ses fondements même. Vous pouvez contribuer par la parole auprès de vos voisins, dans votre atelier, votre bureau, dans votre entourage. Vous pouvez contribuer en participant à nos campagnes d'affiches, à l'organisation de nos réunions et de toutes les façons qui vous sembleront possibles. Alors, vous l'aurez compris, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour nous aider dans cette campagne. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître ces idées plus largement et à les populariser, eh bien, ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les entreprises, dans la rue, en tout cas dans les luttes.
Des travailleurs, l'international.
De base, nous ne sommes pas.